With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Allez, c'est parti pour fin de séance, épisode 26, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle. On est très content de vous retrouver après quelques jours d'absence. Bonne année, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes en notre compagnie. Et oui, puisque notre précédent épisode spécial Noël qui revenait sur les films de décembre a très très bien fonctionné. Donc un immense merci à vous tous qui avez téléchargé, partagé et même échangé avec nous sur Twitter ces derniers jours. C'était très sympa, vraiment, merci. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien de deux grosses sorties ciné, puisque nous allons nous pencher sur le très attendu Creed 2 et revenir sur Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis qui est sorti début janvier dans l'indifférence quasi générale, mais qui à nos yeux méritait bien quelques mots, deux trois mots même plus d'ailleurs si affinité, n'est-ce pas Pierre Delors de fanfootage.fr que je salue. Comment vas-tu camarade?
Eh bien ça va fort bien ma foi, j'ai passé des bonnes fêtes, j'ai pas tellement pris de kilos.
C'est vrai.
Mais autour de la table je crois qu'on est resté svelte pendant les vacances.
C'est vrai, t'es en pleine forme là, ça se voit, très bien. Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr sont également là, ça va les copains?
Allô. Ça va, oui. Bonne année.
Merci, oh, ça me fait plaisir, c'est vrai qu'on s'est pas vu.
Ouais, depuis la dernière fois qu'on s'est vu c'était en 2018 quoi, c'est... Pff, ça date.
Le temps passe.
C'est incroyable. Bon, eh bien écoutez, on perd pas les bonnes habitudes, on démarre avec les avis des spectateurs sur Creed 2, tout de suite, c'est parti.
Bon, cette mission c'est quoi?
Moi j'ai préféré le premier, peut-être l'histoire était un peu plus simple, ouais, plus authentique. Là, c'était trop too much en fait.
Effectivement, c'était un peu too much quoi, surjoué. C'est trop grandiloquent. Voilà. L'histoire est sympa, ça rappelle étrangement Rocky 4 en fait. Voilà, en dehors de ça, ce qui est dommage, c'est qu'il y ait trop de feux d'artifice autour de ça. Les entraînements sont plus galvanisants, les scènes de combat. Si on connaît un peu la boxe, c'est un peu à côté en fait. Ça aurait pu être mieux filmé, mieux mis en scène.
C'était génial. Rocky, toujours là, Stallone, heureusement Stallone est là. S'il n'y avait pas Stallone, c'était pas la même chose pour moi. Les scènes de combat sont magnifiques, on a des plans de face, ce qu'il ne faisait pas avant, donc c'est magnifique. Et en plus, c'est l'émotion, c'est Rocky, on a toujours la larme à l'œil, et il est là, les musiques sont parfaites, tout est coordonné, c'est parfait.
Par rapport au premier, on attendait beaucoup, du coup, très content d'avoir vu ce film, j'attendais depuis longtemps, donc franchement, ouais, j'ai pas été déçu, et voilà, parfait.
Bah, beaucoup d'émotions. Il était super cool et il était lourd quoi. Ce qu'on a vu là, c'est exactement ce qu'on attendait de lui quoi. De la rage, de la détermination, du sang et tout. Voilà, c'était bien. Franchement, c'est ce qu'on attendait.
Bon, alors des avis contrastés sur Creed 2 avec quand même du plus, j'ai envie de dire, puisque les derniers spectateurs qu'on a entendus sont plutôt vraiment très emballés par le film. Creed 2 qu'on attendait plus ou moins, je sais pas, autour de la table vous allez me dire. On va repitcher rapidement le film. Désormais champion du monde Adonis, Creed et Rocky vont affronter les Drago père et fils, dont on se souvient que le père, donc Ivan Drago incarné par Dolph Lundgren, avait tué donc Apollo dans Rocky 4. Revanche et vengeance sont donc au menu de ce Creed 2, cette fois mise en scène par Steven Caple Jr. puisque Ryan Coogler était parti s'occuper de Black Panther et Stallone a même abandonné la réalisation du film, mais il signe le scénario aux côtés...
Co-signe.
Il co-signe le scénario, exact, merci Julien, aux côtés de Cheo Odari Coker, showrunner de la série Marvel Luke Cage sur Netflix. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Moi j'ai été très déçu, personnellement. On va revenir en détail, évidemment, mais j'ai été assez déçu de ce Creed 2.
Moi j'étais mitigé.
Ilan.
Moi j'ai été mitigé, tu parlais de l'attente qu'on pouvait avoir sur Creed 2. Moi je l'attendais que sur une chose, c'est-à-dire sa promesse, à savoir l'affrontement des deux fils, Creed fils contre fils Drago, faisant écho aux événements de Rocky 4. Et le problème de Creed 2, c'est que c'est un film qui ne sait jamais vraiment si... Tu ne sais pas trop si c'est une suite de Rocky 4 ou une suite de Creed. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans le côté suite de Rocky 4, moi j'ai trouvé ça mieux que Rocky 4, mais dans le genre suite de Creed, je trouvais que ça n'apportait absolument rien au film de Ryan Coogler, parce que dans ce, si on le prend par ce côté-là, ouais, par ce prisme, voilà, je n'ai pas utilisé le mot trop savant, tu sais.
C'est 2019, on a un petit verre dans le nez, c'est ça que tu veux dire déjà?
C'est-à-dire qu'en tant que suite de Creed 2, bah, ça apporte rien, ça se repose sur les acquis du premier film. Les relations entre les personnages ne sont pas plus fouillées que ça, si ce n'est la relation entre Creed et Rocky, qui je trouve gagne un peu plus en profondeur, que je trouve assez touchante. C'est vraiment le truc qui m'a accroché dans ce film, c'est ce petit semblant de petite pointe d'émotion, si tu veux, que je cherchais pendant les 2 heures de film, je pense.
Ouais, 2 heures et quart, ouais.
2 heures et quart, quand même. Donc ça, c'était pas mal. Mais après, tout le reste, si tu veux, tout le parcours de Creed dans cette suite n'est pas spécialement intéressant. Même lui, face à l'adversité sur le ring et hors du ring, deux choses qui sont pas vraiment développées. On a droit à l'entraînement, tatati tatata.
Toujours les mêmes motifs. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il a pas appris de ce que Rocky lui a transmis dans Creed 1, en fait.
Oui, non, mais voilà. Mais
c'est quand même dingue.
Ouais, le personnage est comme le film, c'est-à-dire il se repose sur ses lauriers. Et il y a quelque chose en fait qui moi m'a beaucoup intéressé dans le film. Et là, je vais parler de la partie suite de Rocky 4. C'est que le film s'ouvre sur les Drago, ouais. Sur la famille Drago, et je trouvais ce parti pris intéressant de suivre cette famille, d'ouvrir le film sur eux. Limite, moi je voulais pas que le film s'appelle Creed 2, j'aurais voulu qu'il s'appelle...
On est d'accord.
Voilà, tout à fait.
Et ça m'a intéressé. Malheureusement, c'est pas suffisamment développé. Tu sens que à travers Creed 2, il veut te faire aussi un film sur la paternité, la paternité Drago qui s'oppose à la paternité Rocky Creed, mais ça aussi c'est pas très bien développé. Donc ça reste une suite honnête, mais pas transcendant, quoi, au vu des promesses qui étaient faites.
Moi, j'ai eu l'impression d'avoir un film MTV.
Ah, carrément.
Ouais, parce que même dans le rendu global, la finesse, le côté opératique que j'avais dans le premier.
Opératique, il faut pas exagérer.
Ah, non, je pèse mes mots, c'est quelque chose que j'avais dit pour le premier, et je t'assure que les scènes de combat, elles avaient un côté vraiment opératique. Je suis désolé, le plan séquence qu'il y avait notamment.
Le combat du milieu, central, il était dingue.
Fort, je trouve, quand même.
Oui, alors peut-être que les scènes de combat étaient pas mal, mais le reste du film, c'était pas non plus.
Aussi, la musique, l'entraînement, le remix de la musique de Bill Conti, quand même, ça a porter une dimension, alors opératique, je sais pas si je dirais opératique, mais quand même il y avait du souffle, tu te sentais investi par le film. C'était ça la vraie surprise, c'est au-delà de l'émotion que tu pourrais ressentir par rapport au personnage de Rocky dans le premier, une vive émotion en ce qui me concerne. Il y avait quand même tu te sentais concerné par le premier, tandis que celui-là tu te sens pas vraiment concerné, parce que déjà je pense que le scénario il est vraiment en pilotage automatique. Il y a beaucoup trop, en fait le film a beaucoup trop d'ambition qui ne sait pas tenir. Donc c'est que oui, le film aura fait, en fait moi quand j'ai le film s'est fini, je me suis dit ouais, j'aurais aimé que le film s'appelle Drago. Et donc on s'intéresse à ces deux personnages, parce que ce qui était intéressant, c'est que alors au départ on présente le fils Drago comme l'héritier de son père, donc un monstre, une machine à tuer. Et en fait à un moment donné du film, on commence à l'humaniser. Et donc par rapport avec la fuite de sa mère, Brigitte Nielsen, qui réapparaît dans le film, et ça fait un peu peur. Un
tout petit peu gênant peut-être, non,
surtout que ce qui est marrant, c'est que bon, alors je reconstitue, Brigitte Nielsen, c'était la femme de Sylvester Stallone dans les années 80, ouais. Dans sa période où il faisait un peu des nanars réganiens. Donc on appelle ça la période Brigitte Nielsen. Les spécialistes de Stallone appellent ça la période Brigitte Nielsen. Donc période où Stallone était il s'en mettait plein les narines, il avait le gros melon, et donc il faisait des films un peu what the fuck, un peu grandiloquent et n'importe quoi. Et donc en fait ils ont jamais un plan en commun, en fait les deux personnages. C'est marrant, ils ont pratiquement aucune scène en commun, et quand ils pourraient avoir une scène ensemble, ils sont jamais filmés ensemble, donc je pense qu'ils sont même pas tournés ensemble.
Tu vois, même lors du fameux combat, justement,
on les voit jamais, il y a jamais un plan où ils sont tous les deux. Et donc c'est un film qui a des ambitions, il humanise le personnage de Drago, mais finalement il l'exploite jamais vraiment, parce que par exemple Ivan Drago, donc Dolph Lundgren, il y a juste une scène entre lui et Rocky Balboa, quoi.
C'est triste, hein.
Et c'est une scène assez moyenne, hein. Faut l'avouer, un dialogue, un échange pas très subtil et pas très passionnant. Et tu dis, Ah, vous
l'échange,
avez...
c'est moi méchant russe, toi gentil.
On fera le point accent russe après, ouais. Pierre.
C'est pas mal, Pierre.
C'est vrai qu'ils ont un peu voulu faire leur hit, tu sais.
Et, oui, mais
entre deux stars, dans un.
Et
non, ça marche pas.
Et donc on a encore Rocky, donc le parcours de Rocky, mais là qui comme tu disais, Stallone a abandonné la réalisation en cours de route à cause d'un mini scandale par rapport à Me Too.
Ah ouais.
Ah bah oui, il avait été accusé d'avoir violé un gamin de 14 ans.
C'est vrai, c'est vrai qu'il y avait eu ça. Oui oui oui, exact. Oui oui.
Et donc il s'est retiré de la mise en scène. Il est crédité en tant que scénario, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il est démissionnaire à tous les niveaux.
C'est vrai qu'il y avait eu un vieux dossier qui était ressorti d'une nana qui l'accusait d'avoir organisé une sordide partout dans une chambre d'hôtel dans les années 70-80. Ouais, ouais, si, si, ouais.
Jamais.
Si, si, ouais, ouais, ouais.
Ah, bah, pourtant, c'est.
Pour faire profil bas, il s'était retiré.
Ouais, il a fait profil bas. Et donc, mais j'ai vraiment l'impression que cette émission va au-delà de la mise en scène. Je pense que le scénario est pas trop écrit par lui, où il a dû poser quelques idées de base. Et je pense qu'on le sent vraiment parce que on voit pratiquement jamais Rocky, en fait, dans le film. Et je trouve qu'il est vraiment mis de côté, et comme tu disais, Ilan, le parcours de Creed est tellement en pilotage automatique que c'est pas très intéressant, en fait. Alors que il y a sa nouvelle paternité qui arrive, il y a sa femme qui commence, enfin qui montre des signes de fatigue auditive,
ouais.
Et mais ça c'est amené au début, mais après c'est ne jamais exploité sur la fin. Et donc en fait c'est un film qui survole un peu toute sa dimension tragique et qui mène à juste un Rocky assez banal. Les combats sont pas géniaux, sont même franchement pas très emballants.
Bon, il y a une ou deux pêches que Victor Drago qui sont quand même
oui,
sympas.
Oui, non, mais voilà. Oui, mais en termes de mise en scène,
ça
voilà.
Sur deux heures de film, tu vois, sur les combats en tant que tel.
Et là,
des moments forts quand même.
Et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que moi, je préfère Rocky 4 pour ce qu'il vaut, c'est un nanar.
il est fun.
Au moins, mais voilà, mais c'est ça, c'est un mauvais film et tout le monde le kiffe parce qu'au moins ça y va à fond les ballons dans le.
Terminator, le mec voilà. Entraîné par des ordinateurs et tout, enfin c'est avec nous.
Voilà, c'est génial. C'est surtout que ce qui est marrant, c'est que c'était un film, c'était un film que bon que tous les gamins avaient adoré à l'époque. Et je veux dire même que les Russes ont vu sous le manteau à l'époque, enfin l'Union soviétique, et que les mecs, même malgré qu'ils reconnaissaient qu'ils étaient caricaturés dans le film, ils kiffaient le film quoi. Ils étaient tous pour Rocky. Donc c'est pour te dire à quel point quand même c'était un film assez emballant quoi. Et là c'est un film alors qui se veut très sérieux, qui essaye de finir encore une fois le parcours de Rocky et dans la dernière scène qui est pour moi la seule vraiment émouvante. C'est la seule où j'ai commencé à avoir une petite larmichette.
C'est vrai.
Et pourtant c'est une scène qui n'est absolument pas logique avec ce qu'on avait vu par exemple à la fin de Rocky Balboa.
Ouais.
Et donc c'est un film je trouve très plat, très
au-delà du bancal.
Ouais, au-delà du bancal. Tu vois, c'est un film je pense qui j'ai un avis assez moyen dessus et je pense que ça va pas s'arranger avec le temps.
Quoi. Au-delà du bancal.
À toi Pierre.
du coup, moi j'ai alors effectivement, je trouve que Creed 1 était mieux. Attends, Thomas veut sa bière.
Oui, s'il te plaît.
Il fait genre pardon sans bruit pour pas qu'on l'entende mais
allez, vas-y. Pardon.
Excuse-moi. Hein.
Non, mais vas-y. Balance.
J'avais les coulisses de l'émission. Effectivement, Creed 1 était bien mieux réalisé. Ryan Coogler a une patte et ça se sentait. Après, je peux pas dire que j'avais été particulièrement emballé par Creed 1. Je trouvais ça sympa, mais sans plus. Moi, Rocky, la saga Rocky, ça me suffisait amplement. J'avais pas besoin qu'on aille chercher le fils d'un mec, d'un autre personnage de la saga Rocky. Enfin, pourquoi pas créer une franchise de boxe qui peut voler de ses propres ailes? Tu vois, quelle était vraiment la légitimité de la saga Creed par rapport à la saga Rocky? La saga Rocky, on le sait tous, c'est aussi la vie de Sylvester Stallone. Le personnage et son pendant cinématographique et les films reflètent sa vie.
Chaque film reflète une période de sa carrière.
Et aussi, ça parle de cette époque particulière, y compris aux États-Unis, etc. Donc, Creed, qu'est-ce que ça représente vraiment? Je serais tenté de dire pas grand-chose.
Voilà, c'est ça.
Il y a eu sans doute une volonté de Ryan Coogler à la base, sauf que Ryan Coogler, il est plus là. Maintenant, on a changé encore de réal, on sait pas trop qui a écrit le film. Donc voilà.
Je pense qu'il y a aussi qu'est-ce que représente Creed. Je trouve que pour Stallone, le projet Creed en lui-même a de ça important que Creed, c'est aussi un film sur la transmission, sur la filiation, et qui arrive à un moment donné où Stallone a quand même perdu son fils il y a quelques années. Je pense que ça trouve des résonances aussi dans sa vie personnelle qui sont importantes.
Je pense pas que ce soit opportuniste d'être encore dans cette franchise.
Non, mais j'allais y venir.
C'est important pour lui parce que d'ailleurs, pardon, excuse-moi. Oui, tu veux, pardon. Excuse-moi, tu n'as toujours pas dit ce que tu pensais
non,
de
voilà,
Creed.
Exactement. Ça se trouve, j'ai trouvé ça génial. Non, j'allais y venir. Justement, c'est un film qui veut nous parler de la filiation, de la transmission, du rapport au père. Alors, et chez le couple de personnages Drago, le père et le fils, le père qui a transmis sa haine à son fils et qui l'a transformé en machine à tuer. Alors qu'il l'humanise au bout d'un moment, effectivement, ce personnage qui est joué par un comédien que je trouve, par exemple, nettement plus intéressant que l'antagoniste de Creed 1, qui était juste un boxeur basique, que j'ai déjà oublié, je sais même plus à quoi il ressemblait, tu vois. Alors que là, ils sont allés chercher un gros boxeur roumain, germain roumain, enfin allemand roumain, Florian Monteanu. Le mec, c'est une montagne, quoi. Il est gigantesque. Je trouve qu'au moins, il en impose un peu plus. Il a une bonne tête. Et effectivement, son personnage, moi, me marque plus. Mais ce côté filiation, finalement, on a beau faire genre, allez maintenant, on va se distancer de la franchise Rocky vers la fin du film. Allez maintenant, Creed, vole de tes propres ailes, et bah crac, on nous remet la musique de Rocky dans le combat final, tu vois. Enfin,
il y a un moment. Ça, c'est un loupé. Ça,
faut savoir,
loupé,
les mecs. Ouais. Et ce combat final, encore une fois, je repars sur ce que tu disais, Julien. Pour moi, il y a un énorme loupé dans le tête-à-tête entre Ivan Drago et Rocky. Ivan Drago, c'est quand même le personnage qui a assassiné sous ses yeux son meilleur ami,
oui.
D'accord, qui était un des gros méchants cartoonesques de la série, donc vraiment un grand méchant de BD.
Un archétype.
Ouais. Il manque une scène, qui aurait été une scène hyper puissante, où les deux montaient sur le ring à la fin, les deux entraîneurs, pour se faire face avant de lancer leur poulain dans l'arène, quoi. Ça, pour moi, c'est un énorme loupé du film.
Il est plus dans cet esprit-là, Rocky.
Oui, mais pour moi, ça aurait été.
Parce que dans la bande-annonce, je crois qu'il y a. Dans la bande-annonce, il y avait des images où ils se regardaient tous les deux, et dans le film, ça a totalement disparu. Donc
ils ont juste un pauvre face-à-face dans un resto, il dit moi méchant, toi gentil, moi vengeance, et c'est tout. J'en profite pour dire que j'aime beaucoup Dolph Lundgren. Hein.
Mais
quand on a voulu le faire parler en russe dans ce film, c'était peut-être une très mauvaise idée.
Mais vous avez pas trouvé qu'il fait vachement petit Dolph Lundgren dans le film?
Il est à côté d'une masse aussi d'un colosse. Mais le truc, c'est que, il faut le dire encore une fois, les moments en russe joués par Dolph Lundgren et son fils Victor Drago sont particulièrement ridicules. Enfin, c'est vraiment. C'est comme quand nous, on entend des Américains parler avec un pseudo-accent français. Tu vois, faut arrêter avec ça, c'est pitoyable. On sait que le public américain a pas du tout l'oreille pour quelque chose d'autre que l'anglais et l'espagnol. Mais il y a un moment, ça fait tiep, faut arrêter. Maintenant, au-delà de ça, comme vous l'avez dit, je vais pas trop reprendre ça, mais ce que moi j'avais envie de voir, c'était Victor Drago et son fils. Parce qu'au final.
Non, mais à la limite, c'est pour ça, hein. C'est pour ça qu'il faut aller le voir.
C'est pour ça qu'il faut aller le voir, parce que c'est intéressant, parce qu'au final, le personnage de Creed, enfin, je veux dire, il a tout pour lui, il est hyper riche, c'est le champion du monde, tout le monde l'aime, c'est un fils de Bourges.
Il a récupéré sa voiture.
Rien, il a aucun problème.
Oui.
Mais je veux dire, tout va bien pour lui, c'est pas un personnage intéressant. Là, il prend. En fait, en plus,
c'était le cas de. C'était un peu le cas dans Rocky 2, en fait.
Ouais, mais il prend un peu la grosse tête, etc. Mais on l'avait déjà vu dans Rocky 3, tu vois. Enfin, la saga Rocky l'avait déjà fait. Il y a rien de nouveau, en fait. Et je trouve que ce personnage, il est hyper basique. Et il lui suffit. Et tu vois, on veut nous faire croire que c'est le champion du monde. Sauf que ça y est, un match plus tard, il se fait défoncer. Et puis, il lui suffit d'aller s'entraîner 2 semaines dans le désert. Et puis, ça y est, il est de nouveau fort. Ou alors même, il a perdu son match et puis il se fait défoncer par un gros Mexicain tatoué dans le désert qui est même pas un champion de boxe, on sait pas qui c'est. Moi, j'ai pas cru une seule seconde à son statut de champion poids lourd. Le mec, on va te faire croire que c'est le nouveau Mike Tyson, quoi.
Ouais, il revient quand même d'une sacrée convalescence, quand même.
Ouais, enfin bon, c'est hyper facile. J'ai déjà tout vu dans Rocky. Je trouve que c'est pas un personnage très intéressant.
J'essaie pour de défendre, pardon.
Pour moi, Creed 2, c'est comme Creed 1. C'est des films qui sont sympas, ça se regarde, il y a quelques bonnes scènes, mais c'est un peu chiant et j'en retiens rien, tu vois.
Bah, t'avais un souffle épique et vraiment une iconisation dans Creed 1 que tu retrouves absolument pas dans celui-ci. Quel que soit ce qu'on avait dit, l'affrontement entre les personnages, que ce soit les pères figurés ou véritables, Rocky et Drago, aucun souffle épique, aucun frisson dans leurs échanges. Idem pour Creed et fils Drago. Tu ne ressens rien. C'est un film qui est un peu en céphalogramme plat. Ça veut pas dire que tu prends pas de plaisir, parce que c'est un film de boxe correct, mais au vu des ambitions qu'avait donné des ambitions de Creed 1, on pouvait attendre mieux, quoi.
En céphalogramme plat, je sais pas, moi je l'ai vu dans une salle, ils étaient hyper Les spectateurs ont applaudi, hein.
Mais je parle en termes d'émotion pure.
Alors justement, tu vois, dans le micro-trottle, la plupart des gens qu'on entend soulignent vachement l'émotion, le rapport Creed-Stallone. Tu vois, c'est vraiment ça qui les a marqués aussi.
Pourtant, ça passe vraiment au second plan dans le film. Hein. C'est une ou deux scènes. Hein,
peut-être qu'ils retiennent justement la scène finale. tu vois, cette fameuse scène finale.
Non, mais Rocky, voilà. Parce qu'il y a seulement Rocky, en fait. Et on revoit, comme tu dis, Pierre, c'est comme Rocky, c'est Stallone, Stallone, c'est Rocky. On fait l'amalgame entre les deux. Et voilà, tout de suite, ça devient. Le film prend un peu corps à ce moment-là. Mais c'est la dernière scène du film. Et avant, on doit se taper un film qui, moi, je trouve vraiment pilotage automatique, où moi, je vois Stallone démissionnaire. Et c'est un peu triste parce qu'il a annoncé que c'était sa dernière apparition en tant que Rocky. Alors, avec ça, faut jamais dire jamais.
Ils sont partis pour faire un troisième, je pense quand même.
Mais juste, c'est ce que j'allais dire, parce qu'à la fin, sans spoil, mais on nous fait croire que la franchise maintenant va voler de ses propres ailes, comme je le disais, que Rocky reste dans l'ombre et que maintenant c'est à Creed d'y aller. Je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir raconter, parce que déjà on en est à deux films, ils racontent déjà ce que Rocky avait fait. Ils sont obligés d'aller rechercher les méchants de Rocky 4 pour nous créer une scène.
Apparemment, ils vont faire le.
Je sais pas du tout ce qu'il va pouvoir nous dire.
Et Rocky n'a plus le cancer.
Ah oui, et ouais, Rocky a le cancer.
Il prend des médicaments au début.
D'accord. D'accord, mais effectivement.
Non, mais voilà, c'est. Mais c'est pour ça que je trouve que émotionnellement, le film a quand même vachement moins de puissance, quoi. Puisque, écoutez, les événements du 1, on met ce qui nous arrange de côté, on prend ce qui nous arrange de l'autre, et puis on fait un peu notre tambouille, et voilà, quoi. Et on vous la serre, et voilà, c'est à consommer, quoi.
Bon, on vous la serre.
Voilà. Terminé, hein? Je pense que
on a été hyper méchant.
Je peux comprendre.
C'est un peu faible.
Ouais, mais je peux comprendre que le film plaise et je comprends les spectateurs quand même à la sortie qui étaient enthousiastes, qui étaient satisfaits d'avoir vu ce film pour ce qu'il propose. Ouais. Mais vraiment, replongez-vous dans la saga Rocky et revoyez bien Creed 1 à ce moment-là. Mais...
J'étais au UGC et il y a trois gros lascars qui sont venus s'asseoir derrière moi. Et les mecs, ils étaient beaucoup plus jeunes, hein, je sais pas quel âge ils avaient, 19 ans. Et ils étaient à fond dedans, ils pouvaient pas s'empêcher de parler, mais tu pouvais pas leur reprocher de trop l'ouvrir, parce que les mecs, ils étaient là, oh non, t'as vu, oh, obligé, il va perdre.
Et ça crée un effet.
Ils étaient à fond dedans, et en plus, c'était des gros fans de Rocky qui étaient capables de citer tous les trucs. Il y en avait un dans le lot qui connaissait un peu moins, il disait, ah mais attends, t'as pas vu, mais alors ça, dans Rocky 3, il se passe ça, parce que dans le 4, etc. Je trouvais ça hyper marrant, hyper cool. Et pendant le premier combat où Creed rencontre Victor Drago, qui est un combat assez violent pour lui, qui est moi peut-être le seul affrontement que j'ai trouvé un peu cool parce qu'on a vraiment des grosses patates qui défoncent.
En termes de mise en scène.
Eux aussi, ils étaient à fond dedans. Et là, c'est peut-être le seul moment où j'étais un petit peu pris par le truc, c'est que voilà, ça tabasse dur. Et certes, la mise en scène n'est pas. Voilà, c'est pas Michael Mann, mais dans Ali, mais je trouvais que c'était une scène sympa.
Ok, bon. On a terminé ?
Oui.
Ok, très bien. Donc, poids plume, poids mouche.
Poids mouche, oh là,
poids léger.
Petit poids plume.
Bon, très bien. Eh ben, on quitte.
Poids lourd dingue.
Pas mal.
Là,
on applaudit.
Humour.
On applaudit.
Merci.
Poids lourd dingue. Tu m'as sabré ma transition, donc je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, c'est pas grave. On termine donc sur Creed 2. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, effectivement, sur les réseaux sociaux. On passe maintenant à Bienvenue chez Marwen de Robert Zemeckis. C'est parti. Oui, bienvenue à Marwen et pas bienvenue chez Marwen. Pardon les gars, je sais que Ilan... Une vanne Ilan peut-être ?
Non, on pouvait dire bienvenue chez Ch'tite Poupée aussi.
Voilà, ça y est, ça c'est fait. Alors, grand oublié des Golden Globes, sans doute également des prochains Oscars. Assassiné par la presse américaine, peu apprécié des spectateurs américains, énorme gadin au box-office américain. Nous, on avait quand même très envie de revenir sur ce Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis, qu'on aime beaucoup, Robert Zemeckis déjà, et le film également, j'ai l'impression, on va juste repitcher, adapté du documentaire de Marwen Cole de Jeff Malmberg en 2010. Le film s'inspire de l'histoire vraie de Marg Hogenkamp, qui en 2000, fut victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé. Il va alors se lancer dans la construction de la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale en guise de thérapie, un village dans lequel il met en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. On avait très très envie de revenir sur ce film qui est sorti tout début janvier, qui pour nous inaugurait quand même l'année 2019 en grande pompe, hein, puisque c'était pour nous un très bon film. Heureusement, la presse française a été beaucoup plus clémente à son égard.
Mais quand même tiède. Hein.
Pardon ?
Quand même tiède.
Tu trouves ?
Ouais. Moi, je trouve que.
Moi, j'ai vu quand même de très bonnes critiques.
Zemeckis, c'est quand même le réalisateur le un des réalisateurs les plus sous-estimés depuis 19 ans. C'est quand même c'est un réalisateur que tout le monde cite aujourd'hui par rapport à Roger Rabbit ou à Retour vers le futur. Et aujourd'hui, tout le monde s'en moque de lui, quoi. Parce que tout le monde dénigre ses films, personne ne comprend les paris artistiques, technologiques,
ouais, surtout.
L'artisanat qu'il y a derrière son cinéma. Et Marouine est encore une preuve de cet artisanat. Et comme on a une presse française institutionnelle qui n'en a rien à faire de la technique, dénigre la technique forcément, ne comprend rien au film en fait.
Ouais, mais là j'ai l'impression que pour Marouine justement, avec tout le côté technologique que le film propose, au-delà du drame, il y a une réception quand même meilleure justement qui va dans ce sens-là, qui salue justement le côté technique au service de cette histoire-là.
Moi je trouve quand même que la réception est tiède, mais ça okay. N'engage, c'est mon ressenti, mais au moins j'ai pas lu en France quelqu'un qui appelait le film un désastre.
Alors qu'aux US, ils sont pas gênés. Hein.
C'est alors que quelques semaines avant, quand même, t'as cette même presse américaine qui crie au génie devant Aquaman, quoi. Je dis ça, je dis rien.
Ouais, c'est triste. Bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Bah, moi, voilà, j'étais vraiment emballé par le film. C'était un film que j'attendais beaucoup depuis que j'avais vu la bande-annonce. Ne serait-ce que, voilà, pour la proposition de cinéma qu'il offre, ça veut dire une espèce de psychanalyse par la fiction d'un personnage qui est traumatisé. Et on peut préciser qu'en fait, il y a un artiste graphique de talent,
oui.
Illustrateur, tout ça, qui après n'a pu exercer sa profession
à cause de
et,
ce qui lui est arrivé,
et qui donc recrée
il s'est fait lyncher par des mecs parce qu'ils l'ont pris pour un homosexuel et donc ils l'ont lynché
parce qu'on a le personnage en fait qui est un fétichiste des chaussures de femmes et donc qui aime porter des chaussures de femmes et on va y revenir, mais ce qu'il y a c'est que ce qui est brillant c'est ce côté donc c'est aspiré d'une histoire vraie mais ça dépasse en fait tout les prérogatives d'un biopic. Ça se permet beaucoup de liberté. Le film s'ouvre déjà sur une séquence d'animation où en fait c'est le délire du personnage, en fait son fantasme à travers donc ses poupées qu'il manie, qu'il photographie. Il se fait des films qui en fait sont des projections de son traumatisme par lequel il va y avoir tout un processus de guérison très complexe et très intelligemment construit de manière dans la psychanalyse. Alors je suis pas un spécialiste de la psychanalyse, mais
tiens donc, il me semblait.
Je suis un peu déçu là.
Excusez-moi. Mais il va y avoir tout un processus de guérison, des étapes, des symboles de psychanalyse qui sont disséminés ici et là, et vraiment de manière très intelligente. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le rapport à la violence. C'est-à-dire que ce personnage revit son traumatisme par la fiction, par rapport à des nazis qui reviennent sans cesse malgré qu'ils sont exécutés par des acolytes féminins du personnage central, de sa projection fantasmée. Et en fait, c'est par le biais de la violence, d'accepter la violence, d'embrasser cette violence qui va lui permettre d'aller dans la voie de la guérison. Et c'est un discours quand même qui est pas si fréquent. Surtout à notre époque très moralisatrice, où tout de suite, dès qu'on parle violence, c'est forcément gratuit, c'est forcément pas bien. Et là, il y a vraiment une projection, une acceptation de cette violence qui est très frontale dans le film, même s'il en joue avec des connexions. Je veux dire, on a des personnages qui se font empaler, des poupées qui se font empaler, ce genre de choses.
Et on
s'en amuse. Mais derrière, il y a vraiment la violence même qu'a subi ce personnage et qui l'obsède et l'empêche d'avancer, mais par laquelle il va progresser.
Donc ça veut dire que ce que tu veux dire par là, c'est que derrière le côté ludique du film, quand on gratte un peu,
il y a une vraie tragédie, il y a une vraie profondeur, et c'est un film vraiment très fort parce que on ressent toutes les émotions du personnage et le moindre petit élément qui est susceptible de le faire rechuter prend une dimension dramatique très très forte, quoi. Et c'est je pense que c'est à mettre au crédit du génie de Robert Zemeckis. Par rapport à sa mise en scène, qui c'est pas juste de l'illustration qu'il fait, Il y a qu'à voir, par exemple, il y a deux scènes de tribunal qui se passent dans le tribunal où il y a la première où il doit être confronté à ses agresseurs. Et la première, en fait, on ne les voit jamais en premier plan. Ils sont floutés parce que le personnage n'accepte pas de les voir. Mmh. Et dans le, je veux pas spoiler, mais dans la deuxième partie, là, son regard va changer complètement. Et donc, la caméra de Robert Zemeckis va changer du tout au tout. Ça, c'est de la pure mise en scène. Et ça, c'est ce qu'on ne retrouve jamais, enfin, pratiquement jamais, dans les biopics académiques qu'on nous sert, tous les films inspirés d'une histoire vraie, où on se contente d'illustrer une histoire. Là, c'est une histoire. On l'a fait vivre par la mise en scène, par des idées de cinéma, par des trouvailles visuelles. Et c'est, je trouve ça vraiment. C'est, pour moi, c'est ce qui me galvanise. Quoi.
Super. Pour un mec qui est pas psy, tu t'en sors plutôt bien.
Allonge-toi. Vas-y, à toi.
Vas-y, dis-moi tout mon
côté. Ilana, vas-y.
Alors, écoute, moi aussi, je vais commencer par un petit côté psychanalytique. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je jouais avec mes figurines, je faisais des films avec les figurines. Donc, facteur identification, tout de suite, on peut cocher la case. J'étais tout de suite. j'étais tout de suite pris dans le.
Avec des nazis aussi ?
De temps en temps, il y avait des nazis, ouais, ça dépendait des jours. J'évitais, tu sais, les jours du Seigneur ou le Shabbat, je mettais pas de nazis. Et.
Ça, c'est fait, voilà. Mais okay. Bref.
Non, mais effectivement, pour citer Julien avec qui j'ai vu le film, effectivement.
Ah, vous êtes comme ça, vous faites des séances à deux, sans rien dire.
Ils se citent mutuellement.
Ouais, ils nous snobent, hein, Pierre, t'as vu ça
un peu.
Il y a
quelque chose qui va pas.
Et on l'a vu avant les premières actions de la critique américaine. Hein,
excusez-nous.
Oh là là, pardon.
Donc pour citer Julien qui avait tout à fait raison quand il disait que c'était un film somme, effectivement, dans Bien Bien Marwan, il y a ce côté film somme qui envoie toute la filmographie de Zemeckis. On a des tas de clins d'œil à ces différents films, et je trouve que c'est un palier supplémentaire dans la manière en fait qu'a Zemeckis de toujours explorer l'art de raconter une histoire. Parce que les films de Zemeckis, c'est quoi ? Ce sont des films sur la narration. Et il y a un gros volet là-dessus. Pour moi, c'est un film sur l'art de raconter une histoire, sur le pouvoir cathartique de la fiction. Et j'ai pas lu tellement de, j'ai évité de lire les critiques françaises sur le film. J'en ai lu qu'une parce que les critiques américaines étaient tellement mauvaises, tellement à côté de la plaque. J'ai évité. Il y avait une critique qui reprochait au film le rapport que entretenait le personnage de Steve Carell avec les femmes, disant que c'était un rapport de domination qu'il avait avec les femmes, que ça la mettait très mal à l'aise, etc. Et je trouve que là aussi on est complètement à côté de la plaque, parce que ce film c'est une ode à la femme. C'est réellement une ode à la femme.
Alors, moi j'ai trouvé ça un sujet,
pouvoir de guérison, et surtout effectivement, encore une fois, au pouvoir de résilience, au pouvoir de la fiction. Et encore une fois, on a Zemeckis qui repousse encore une fois les limites de son propre cinéma. Encore une fois, il joue avec les perspectives, il joue avec nos perspectives, tel que l'a dit Julien tout à l'heure, je le recite.
Là, dis donc.
Mais tout ça en fait effectivement un film extrêmement complet, extrêmement beau, parce qu'au-delà de la technique, il y a aussi le cœur. C'est un film qui a un énorme cœur, qui a une empathie, une très grande, grosse empathie pour ses personnages, tous ces personnages, en particulier celui de Steve Carell, qui est aussi dans son côté marginal quelque chose un peu de Doc Brown, du personnage de Joseph Gordon-Levitt dans The Walk, ou encore dans sa manière d'affronter ces démons, de les fuir puis après de les affronter. Il m'a aussi beaucoup rappelé le personnage de Denzel Washington dans Flight. Donc on peut aussi dire là-dessus que c'est un film somme, parce qu'à la fois il renvoie à toutes les figures symboliques de son cinéma au niveau technique et iconique, mais aussi au niveau des personnages.
Ce qui est une première, hein, parce que Zemeckis aime pas du tout il se fait pas dans l'autocitation et dans l'auto-analyse de sa fiction. Pour avoir lu des interviews et vu des interviews avec lui et discuté des gens qui l'ont interviewé, ça fait partie de ces réalisateurs américains qui fait oui non mais ça c'est vous qui le voyez, c'est parce que vous êtes français.
L'interprétation des critiques,
voilà, et qui est très froid en fait, qui met beaucoup de distanciation et qui devient plus très sympathique en fait dès que tu essaies d'analyser son cinéma. Et de le voir s'autociter, mais pas de manière gratuite pour se faire des clins d'œil. Je suis bon quand même, tu vois. Non, on a l'impression qu'il y a une mise à nu là, parce que c'est quand même quelqu'un qui a subi des échecs consécutifs et qui là se met son cœur de cinéaste à nu, parce que ça parle quand même d'un créateur, d'un narrateur, qui est donc voilà le personnage qui met en scène encore une fois son traumatisme, tout ça. Et on a l'impression que Zemeckis, pour la première fois de sa carrière, s'ouvre un peu comme a fait Speed Spielberg encore avec Ready Player One récemment, tu vois, de parler à son public, ouais, et de parler de lui en tant que cinéaste. Et je trouve que voilà, ça rend le film très émouvant, et c'est d'autant plus que j'ai envie de le défendre, quoi. C'est, je me dis, c'est un palier dans la carrière de Zemeckis pour moi, ce film.
Ah ouais.
Ouais ouais, moi je pense que son, enfin, je sais pas à quoi va ressembler sa carrière ensuite.
Le prochain film, c'est avec
The Rock.
The Rock, ouais.
Bon, après, je sais pas s'il va être toujours d'actualité vu le bid du film. Hein, ça, je veux dire, le film va perdre 50 millions de dollars en tout. C'est quand même assez
terrible.
Énorme.
C'est terrible.
C'est un des plus gros échecs de l'année passée.
Il a fait 2,4 millions de dollars pour son premier week-end, pour un budget de 49. Bon.
C'est un film qui est très incompris. Je pense que ça va être un des films les plus incompris de l'année. Ça, c'est sûr. Moi, c'est ce qui ressort de ce que j'ai vu, c'est que les gens ne comprennent pas ce film, ne comprennent pas le caractère personnel qu'il peut avoir, ne comprennent pas à quel point il fonctionne sur différentes strates, à quel point il fait jouer à la fois le merveilleux et l'intime sur des plans à la fois différents et complémentaires. Et je trouve que c'est un film qui est extrêmement fort.
C'est beau ce que tu dis.
Allez, à toi, Pierre, on t'a pas entendu encore. Qu'est-ce que t'as pensé de ce film qu'on a vu ensemble?
Moi, j'en ai pensé qu'il ne faut pas se fier, si vous êtes des spectateurs français, il ne faut pas se fier à cette affiche assez moisie qui ressemble à une comédie basique avec Danny Boone. Il ne faut pas se fier à ce titre qui est aussi pas du tout évocateur. Il faut aller le voir, c'est vraiment un très beau film, c'est un film qui a du cœur. C'est effectivement, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important, Julien, c'est que Robert Zemeckis se dévoile vraiment. Le film parle autant de ce personnage qui a véritablement existé que de lui, Robert Zemeckis. Je maîtrise pas suffisamment son dossier, sa vie, etc. J'ai jamais lu de bouquin sur la vie de Robert Zemeckis, mais je sais que c'est un mec avec des obsessions, avec aussi peut-être des traumatismes qu'on ne soupçonne pas, et qui s'est certainement beaucoup retrouvé, beaucoup reconnu dans ce personnage. Je sais pas non plus dans quelle mesure l'histoire a été réadaptée, réécrite pour le cinéma. Je pense pas que ce soit hyper non plus, enfin, ça m'étonnerait que ce soit passé exactement comme ça.
Oui, bah, c'est parce qu'il pose un regard de cinéma, cinéaste dessus.
Il y a un regard extrêmement personnel, ce qui, à mon avis, a échappé totalement à la critique américaine. Bon, on va pas encore lui taper dessus à cette pauvre critique américaine, mais.
Ah, si, si! Ouais,
elle l'a bien cherché quand même.
La plupart de toute façon, il faut le dire, ce qu'il y a, et souvent, c'est un milieu très intellectuel, démocrate dans les grandes villes, et ils sont dans une espèce de telle fuite en avant pour montrer qu'ils ne sont pas l'Amérique de Trump, que dès qu'il y a quelque chose qui paraît un petit peu polémique, tout de suite on lui tombe dessus.
Et puis on sort aussi du hashtag MeToo, donc j'ai l'impression que c'est la cible facile.
Mais c'est ça, il leur faut absolument prouver à la terre entière qu'ils sont beaux, tolérants et pacifistes, et que du coup, dès qu'il y a un truc qui parle d'un rapport avec les femmes, ça y est, crac, on lui est tombé dessus pour qualifier le film de film misogyne. Pour moi, c'est une énorme bêtise.
C'est un contresens total de ce qu'est le film.
Alors, contresens, moi je suis pas non plus de l'avis d'Hilan. Je dirais pas comme toi, Hilan, que c'est une ode à la femme. Je ne pense pas. Je crois que derrière, il y a un rapport aux femmes justement qui est très important. Il les met sur un espèce de piédestal. Je pense pas que ce soit non plus une ode à la femme. Mais ce qui dérange un petit peu dans ce film, c'est que dans son monde imaginaire, là, ses figurines, ses poupées, c'est même pas des figurines, c'est des poupées qu'il fabrique, qu'il prend en photo pour faire des films.
Pas des photographies, mais
des faux docu-photos. Il s'imagine des scénarios pendant la Seconde Guerre mondiale où lui se voit comme ça, dans un espèce de pilote héroïque. C'est qu'il est accompagné d'une bande de femmes très grindhouse.
Très pulp.
Très pulp. Et en fait, c'est des personnages de BD. C'est-à-dire qu'elles sont physiquement, elles ont une apparence un peu sexualisée. Et puis on a la rousse, la noire, la mexicaine, la française coquine.
Et chacune renvoie un personnage dans la vraie vie du personnage.
Qui sont toutes inspirées, voilà. Alors, désolé de refaire mon petit point accent pourri. mais on sait que Robert Zemeckis, malgré tout l'amour que je peux avoir pour lui, n'a pas démontré au fil de sa carrière un talent pour les accents particulièrement prononcés.
Hein, regardez The Walk en France, en VO, c'est voilà. Particulièrement génial.
Moi, je suis pas d'accord pour The Walk.
Encore une fois, des accents bien pourris, notamment un bel accent russe, totalement ringardos de la part de Gwendoline Christie, cette actrice de Game of Thrones. Quand c'est des poupées, ça me dérange pas. Parce qu'encore une fois, c'est des personnages de BD, c'est des personnages de films pulp. Donc c'est normal qu'elles aient un espèce de côté série B, pas réaliste. Par contre, quand ça se passe dans la vraie vie, je trouve ça moisi. Mais bon, bah, c'est pas très important, je me suis pas arrêté là-dessus. Le truc, c'est que il y a ces personnages féminins qui ont sans doute un peu gêné, mais en fait, il faut voir derrière les apparences, il faut voir aussi que c'est le véritable trauma de ce personnage, Marc, qui s'est traduit comme ça. Après tout, c'est un personnage qu'on voit aussi regarder des films porno à un moment dans le film. Hein.
C'est vrai, oui, c'est vrai.
Non, mais oui, c'est un homme seul et qui, d'ailleurs, malgré ça, ne projette aucun fantasme sexuel sur ses poupées. Hein.
Non, parce que ça reste des guerrières dans son imaginaire. Et...
C'est des guerrières, mais ce que disaient des critiques américains, c'est que ces femmes n'ont aucun rôle, c'est juste des personnages secondaires.
Les faire valoir
qui ne sont là que pour supporter le personnage de Marc. Ben oui. En fait, c'est même pas des vrais personnages, c'est des projections mentales, c'est des aspects de sa personnalité qui l'aident à sortir de son trauma. C'est pas des véritables humains, c'est simplement inspiré de personnages qui sont dans son entourage pour les créer. Et c'est pas grave. Et ça ne fait pas du film une histoire misogyne, pas du tout. C'est un très beau film, c'est un film qui a du cœur, c'est un film qui est très drôle. Et ce qu'il faut dire, c'est que si vous aimez le cinéma, si vous aimez la mise en scène et que vous le loupez en salle, honte à vous, parce que on a un niveau de maîtrise, notamment dans ces espèces de scènes, ces scènes de transition entre l'animation et la prise de vue réelle.
Il y a des raccords dans le plan
qui sont absolument démentiels.
C'est fou, ouais.
Et il y a cette fameuse ouverture où on commence un avion de chasse et puis j'en dis pas plus. C'est très perturbant au début, on sait pas trop à quoi on a affaire, puis après on se rend compte et puis on trouve ça génial. Et puis c'est hyper ludique. Et puis après on découvre qu'il y a une esthétique de poupée comme ça. C'est vraiment très bien fait. C'est parfois hyper touchant, parfois hyper drôle. Donc c'est un film qu'on conseille et reconseille. Et si vous le loupez, ne vous laissez pas influencer par tous ces avis sans intérêt.
N'ayez pas peur par rapport à l'affiche. Allez-y vraiment. Hein, vraiment.
Et soyez curieux.
Je reviens sur ce que tu as dit concernant Robert Zemeckis que tu connais. C'est pas trop qu'il n'y avait pas de livre sur lui. Faut savoir que Rocky Rama.
Il y en a peut-être, mais moi j'ai pas lu. Hein.
Rocky Rama a consacré son dernier numéro à Robert Zemeckis. C'est un numéro entier à Robert Zemeckis avec des articles qui sont vraiment intéressants et qui offrent des clés qui peuvent permettre.
Dis donc, t'as participé au numéro quoi toi ?
Non, du tout.
Ah bon, d'accord.
Okay. Non, mais du tout. Mais je trouve que le numéro est intéressant. Moi, j'ai appris des trucs sur Robert Zemeckis et ça peut permettre de comprendre un peu mieux aussi. Bienvenue à Marwan et pas bienvenue chez Marwan.
Ça va, merci. Ok. Autre chose à rajouter ?
Que si vous aimez le cinéma, allez voir le film et.
Et puis revoyez les films de Zemeckis, quels qu'ils soient, tous.
Alors, moi, j'aurais juste une chose à dire. La BO d'Alan Silvestri.
Ah oui.
Qui est vraiment, vraiment chouette. Si vous aimez les belles compositions de films, restez jusqu'au bout du générique, même, parce que le thème de fin est vraiment super beau.
Ah si, alors. Désolé, mais il en fallait un. Ah. J'ai un petit bémol.
Ah bon ?
Oui, j'ai un petit bémol.
Tu m'as caché ça.
On en a parlé à la sortie. C'est que je trouve que Steve Carell est très bien, c'est un très bon comédien. Je trouve pas non plus qu'il livre la meilleure performance possible pour le personnage. Je le trouve très bien, mais je le trouve un petit peu dans une espèce de zone de confort de personnage que j'ai déjà vu chez Steve Carell. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin là-dessus. D'ailleurs, les critiques américaines sont revenues sur le casting de Carell dans le film. Ils pensent qu'il a été employé pour désamorcer le côté pervers et misogyne du film.
Non, parce qu'en fait, Carell avait aussi...
Ce qui est idiot, d'ailleurs.
Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Carell était tombé sur cette histoire, déjà sur ce même documentaire où je crois la biographie du personnage de Marc, et il voulait absolument prendre les droits.
Je remets pas ça en question.
Et en fait, c'est un alignement des planètes, c'est-à-dire qu'au même moment, Zemeckis est tombé sur le documentaire, ils se sont contactés, et voilà.
Voilà, j'adore Steve Carell, hein, c'est un comédien que je trouve formidable. Je ne trouve pas que dedans il soit exceptionnel et voilà, c'est un mini loupé. Et la même chose pour le personnage de Diane Kruger, hein, parce que Diane Kruger est dans le film. Je trouve pas qu'elle soit formidable. C'est un de mes petits bémols. Hein.
Le personnage de Steve Carell qui l'interprète, c'est un personnage qui est difficile à aborder aussi, parce que
bien sûr.
Pas trop comment cerner, comment tu vas jouer un personnage comme ça. Moi, je trouve qu'il s'en sortait plutôt bien.
Bon, puisqu'on en est dans l'espace des bémols, là,
je vais dire
mon petit truc.
Non,
c'est vraiment très secondaire.
C'était de la merde.
Non, c'est vraiment très secondaire. C'est par exemple le personnage de Kurt, je crois que c'est, si je me souviens bien.
Oui, le voisin.
Le petit ami, l'ex-petit ami de la voisine, donc de Steve Carell.
Interprété par Leslie Mann, qui est très bien. Hein.
Qui, en fait, son intrigue en fait, ne mène pas grand chose. En fait, je trouve qu'elle a été. On a l'impression qu'elle est en parce que tu sais, on a cette scène où.
Je pense qu'il a pas le temps. Il a pas le temps, il te le symbolise facilement, tout de suite.
Le mec, fait un renvoi à une figure nazie de son imaginaire. et où il y a une confrontation entre les deux personnages. Le personnage est très effrayé et on se dit qu'il va y avoir un drame avec ce personnage et en fait ça ne vient jamais. Donc, mais c'est vraiment trois fois rien comparé aux qualités réelles du film. Hein. Vraiment.
Bon, bah voilà. Ok, c'est bon ?
Ouais.
C'est
allez.
Parfait. Ok, bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis, c'est en salle. Allez-y, allez-y, vraiment. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On en discute. Allez, merci à Lucas, Stéphane, Angélique, Amiré et Lauriane pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle sur Creed. Pour nous retrouver, c'est très simple, sur toutes les applis podcast, SoundCloud et Spotify. Sur Twitter également, @fin2_séance, hashtag fin de séance. Un petit merci également à une auditrice, les amis, une auditrice du côté de Édimbourg qui s'appelle Anaïs. Donc on lui fait un très gros bisou.
On nous écoute en Écosse, si c'est
ouais.
pas Bruce, hein.
C'est super cool.
C'est trop la classe.
C'est trop la classe, c'est
le
super
pays de
sympa.
Highlander.
Voilà. Il y a quelque chose que je voulais vous demander, les copains, avant qu'on commence l'émission, puisqu'on était en 2019, et je vous ai pas demandé quel était votre top flop pire film de 2019, votre top 3, très rapidement. Julien.
Oh, top 3. Oh.
Top 3.
Non, alors, moi j'ai pas eu l'occasion d'en parler l'année dernière. Ready Player One de Spielberg, bon, c'était une claque quoi.
D'accord, donc top 1.
Ouais, enfin là je saurais pas te faire. Bon, enfin, on a parlé de plein de films qu'on aimait, donc je pense qu'ils
sont dedans.
Le pire, je crois que j'en ai parlé aussi. Pour moi c'était Suspiria, hein, franchement.
Suspiria, d'accord.
C'est bon, Ilan, il va faire la gueule encore, mais.
Voilà, ça va se régler dehors, t'inquiète.
Ilan, à toi, ton top.
Mon top, ce serait.
Un top, un pire.
Oui, alors le meilleur ce serait Free Billboard.
Free Billboard, ouais, très bien. On vous renvoie vers notre podcast, évidemment.
Voilà, et le pire, ce serait Ghostland.
D'accord. D'accord. Toi, t'as un petit dossier avec un certain Pascal Logier,
ouais,
je crois.
Ouais, je pense que ça va aussi se régler à la sortie d'un Hurling.
À toi, Pierre, dis-nous tout.
Bah alors, moi, le pire film que j'ai vu cette année, j'hésite. Mais je pense que je vais aller vers A Wrinkle in Time.
Un raccourci dans
un
le temps.
Un raccourci dans le temps. Je trouvais ça vraiment moisi. Sinon, il y avait Cloverfield 3, qui était quand même tout pourri.
Mm-hmm.
Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix.
Si, oui, oui. Ouais.
Et comme d'habitude, pareil, je peux pas m'empêcher. On me demande un truc, j'en fais deux.
En top. Allez,
mais mon top, en fait, c'est pas ce que je considère comme les meilleurs films de l'année, mais c'est vraiment mes deux gros coups de cœur. C'est Une affaire de famille, le film de Koreeda.
Mm-hmm. Ouais,
c'est
beau, ouais.
Si vous l'avez pas vu, c'est absolument formidable. Et Lieto, le film russe sur le groupe Kino, c'est juste mortel.
Très bien.
Okay. Qui avait été recommandé aussi par Ilan Chaud.
Bah, tout à fait.
Pourquoi tu as bon goût ?
Il paraît, ouais.
Moi, je voulais dire aussi Ready Player One pour le top, mais donc je vais le laisser à Juju. Mais je me range derrière toi. Je vais citer Pentagon Papers.
Phantom Thread, c'était génial.
Alors, il y avait le Paul Thomas Anderson, effectivement, Phantom Thread aussi, que j'aurais pu citer.
Dont on n'a pas parlé cette année.
Spider-Man.
Ouais, énorme.
Spider-Man,
il y avait des très beaux films d'animation cette année. Hein. Mirai qui était hyper beau. Indestructible 2.
Alors, Spider-Man, quand même, là, qui a remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation, ouais. Donc ça sent très très bon pour lui pour les prochains Oscars. Donc,
entre
très,
Batman très Ninja bon. Et Spider-Man, c'était quand même kiff kiff. Hein.
Et dans le pire, je vais citer Aquaman.
J'ai pas vu.
On devait en parler, on aurait pu en parler dans le précédent podcast, mais on n'a pas
voulu. On n'a pas voulu se mouiller.
Voilà. Venom était bien pourri. Hein.
Ilan.
Oui, c'est moi.
Merci.
Merci à toi.
On te retrouve sur
cinevibe.fr et cinevibefr sur Twitter.
@cinevibefr. Julien, idem, hein, sur cinevibe.fr.
Peut-être plus pour très longtemps, je sais pas. Quand je parle de Suspiria encore, mais.
Ah, il y a des choses à régler là en coulisses. Pierre, merci à toi.
Eh ben, de rien.
On te retrouve très vite sur
fanfootage.fr.
Et sur Twitter.
@fanfootage.fr.
Voilà, très bien. Bon, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite les amis. Bye bye.
Bisous, bisous.
Salut.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.